J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial, donc consacré à la mort de Robert Badinter. À l'ordre du jour ce soir, comment faire preuve de conscience morale, être et demeurer un intellectuel en politique. Il est des personnages historiques dont les récits biographiques n'épuisent pas la totalité de la vie et de l'œuvre. C'est le cas évidemment de Robert Badinter, disparu aujourd'hui à l'âge de 95 ans et dont le riche parcours ne peut se résumer en quelques mots. Fils de juif né dans l'Empire russe en Bessarabie, l'actuelle Moldavie, arrivé en France par passion du pays qui le premier émancipa les juifs en 1791. Il a échappé aux rafles lyonnaises, commanditées par Klaus Barbie, tandis que son père et ses grands-parents étaient déportés et devenu juriste après-guerre, puis avocat spécialisé dans le droit d'auteur avant d'embrasser le pénal pour combattre la peine de mort. Ministre de François Mitterrand, il portera la loi d'abolition de cette peine, subira les propos haineux de membres de l'opposition dans ce combat avant de présider le Conseil constitutionnel. Passionné par la Révolution française, il travaillera avec les historiennes et avec les historiens sur la question de la prison républicaine et ne cessera de défendre les droits de l'homme au-delà des frontières de notre pays. Avec nos invités, nous allons tenter de placer l'itinéraire de Robert Badinter dans cette longue histoire des rapports des Juifs à la République, de comprendre la place de l'abolition de la peine de mort dans l'histoire des droits humains et plus largement d'imaginer combien le droit peut être important pour les régimes démocratiques. Nous allons le faire en compagnie de Nicolas Picard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en histoire, professeur agrégé d'histoire au lycée Doineau de Corbeil-Essonne et auteur d'une thèse sur le châtiment suprême, l'application de la peine de mort en France entre 1906 et 1981. Avec nous également une autre historienne, Perrine Simon-Naoum. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne et philosophe et directrice du département de philosophie à l'École normale supérieure. Avec nous également Antoine Lyoncan. Bonsoir Antoine Lyoncan.
Bonsoir.
Vous êtes avocat au Conseil, juriste et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez travaillé avec Robert Badinter. Enfin, dernier invité, Pierre Birnbaum. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et professeur émérite à Paris 1. Et nous allons commencer avec vous, Pierre Birnbaum, puisque vous êtes auteur de nombreux livres, et en particulier de livres sur ce que vous appelez les Juifs d'État, c'était les Fous de la République en 1992, mais aussi sur la question de l'histoire de l'antisémitisme en France au XIXe siècle et encore aujourd'hui, et que vous avez réfléchi à cette question de cette histoire, je disais, cette passion, cette histoire d'amour qu'il a pu y avoir pour tous ceux et toutes celles qui, à l'étranger, en tant que juifs et juives, eh bien, ont imaginé que la France pouvait être un pays d'accueil alors qu'ils étaient persécutés ailleurs, justement en raison de la question de l'émancipation. Quelle place prend la figure de Robert Badinter, ou peut-être devrait-on dire de ses parents et de ses grands-parents, dans cette histoire, ce miroir qui nous était tendu par l'histoire, justement?
En quelques mots, on peut simplement dire que son histoire s'inscrit dans le long terme de l'exceptionnalisme de la société française, qui la première émancipe les Juifs en 91, comme vous l'avez dit, et qui, du même coup, leur permet d'entrer très vite au service de l'État. C'est-à-dire que la méritocratie va leur être ouverte, les Juifs vont devenir agrégés, et puis très vite, enseignants, préfets, colonels, vont entrer dans l'État grâce à cette méritocratie républicaine qui n'existe à peu près nulle part ailleurs au monde. Badinter, d'ailleurs, lui-même, a écrit un petit livre qui montrait son attachement à cette période de l'histoire de France, qui s'appelle « Libre et égaux », et sur l'émancipation des Juifs. Nous avions participé ensemble en 1989 ou 90, je ne sais plus, à un colloque à Columbia sur la Révolution française, et c'était quelqu'un de très attaché, au fond, à cette révolution, dans la mesure précisément où elle mettait en place ses idéaux universalistes d'émancipation de l'ensemble des citoyens, y compris des Juifs. Donc, à travers Badinter, on touche à un moment tout à fait crucial et à un aspect tout à fait crucial de la société française qui est assez original. Et lorsque l'on relit ses textes, il se déclare lui-même explicitement je le cite, français, républicain et juif. C'est-à-dire une trilogie qui est presque la même que celle à laquelle a recours tellement souvent Léon Blum, qui lui aussi est passé par le Conseil d'État, et l'École normale supérieure, etc., donc qui était un juif d'État également. Blum disait « je suis français, socialiste et juif ». Et Badinter pourrait dire aussi « je suis français, républicain et socialiste et juif » puisqu'il était membre d'un gouvernement socialiste. Donc, on est vraiment dans cette longue lignée qui va de la Révolution française à Crémieux, de Crémieux à Mendès France, de Mendès France à Simone Veil aujourd'hui, et qui représente quelque chose d'assez unique dans l'histoire mondiale, qui a d'ailleurs soulevé énormément de réprobation d'une partie de la société française, choquée par le fait qu'on puisse voir des juifs accéder aux plus hautes fonctions de l'État. L'affaire Dreyfus en est le meilleur témoignage. Et on a vu se lever ce que j'ai appelé l'antisémitisme politique, c'est-à-dire au fond quelque chose de proprement spécifique à la société française, qui naît en France comme une sorte de réaction à l'entrée, au fond, à la gloire de la société française, qui permet justement, sur une base universaliste et émancipationniste, l'entrée des citoyens juifs aux plus hautes fonctions de l'État. Donc on a une sorte de jeu des deux côtés, c'est-à-dire la face cachée et la face brillante, la face remarquable de la société française qui émancipe et permet ses carrières à des étrangers, souvent à des comme Badinter, dont les parents viennent de l'Est, ils sont des émigrés, et puis la face négative, cette espèce de promotion par la République et par la méritocratie, a suscité tout au long du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Prenez par exemple encore l'exemple de Pierre Moscovici, qui est président qui est à la tête de la Cour des comptes. Oui, de la Cour des comptes, qui est là encore une des grandes institutions de l'État et qui se réclame, qui lui aussi se dit juif et ne le cache pas. Donc on a cette espèce de double aspect de la société française que Badinter caractérise très bien et de manière extrêmement élégante, avec beaucoup de courage, beaucoup de force et une intelligence tout à fait remarquable.
Et pourtant, il a eu à connaître effectivement le régime de Vichy, il a eu à connaître la déportation et la mort d'une grande partie de sa famille. D'ailleurs, il évoquait effectivement le mémorial de la Shoah en évoquant le fait qu'il y avait beaucoup de noms de sa famille proche ou éloignée dans ceux qui avaient été déportés et qui étaient morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à ce titre-là, il aurait pu, comme d'autres, être, repousser justement cette France qui avait permis aussi ce type de déportation et d'assassinat de masse. Il ne l'a pas fait, Pierre Birnbaum.
Ça reste toute l'ambiguïté du régime de Vichy. Et d'ailleurs, Badinter a accepté, s'est rallié entièrement à la vision de François Mitterrand, qui consistait à dire que ne faites pas de la République le responsable. Vichy, la République est morte avec Vichy. Vichy n'est pas la République française. Ne demandez pas des comptes à la République. Et Badinter a accepté cette interprétation. C'est intéressant parce qu'en réalité, c'est juste. Et lorsque vous regardez les discours de commémoration, même le tout dernier d'Emmanuel Macron, il y a 2 ou 3 ans, il dit la même chose. Qu'est-ce que Vichy? C'est le pouvoir de l'extrême droite. C'est « je suis partout au pouvoir », c'est « Maurras au pouvoir », ça n'est pas la République et ça n'est même pas l'État. Alors là, il y a une véritable question de droit qui se pose. Si ce n'est pas l'État, en quoi est-ce que l'État serait dit responsable de Vichy? C'est une question qui n'est toujours pas résolue et le Conseil d'État lui-même est intervenu souvent par plusieurs arrêts extrêmement emberlificotés en disant en même temps que l'État n'est pas responsable, mais que néanmoins il l'est. C'est une question qui reste très troublante. Et puisque vous évoquez cette dimension de la vie de Badinter, c'est aussi toute la question sur laquelle on ne va pas revenir aujourd'hui, du rapport entre Mitterrand et Bousquet et la manière dont on a su quelles étaient ses relations et peut-être la manière dont Robert Badinter n'est pas vraiment intervenu dans ce débat.
Oui, Perrine Simon-Naoum, c'est aussi une des grandes difficultés que d'imaginer cette droite ligne, celle de Robert Badinter dans ses soubresauts du siècle, qui aurait pu le conduire à un moment ou à un autre, effectivement, à douter justement de cet engagement de la République, à douter de cette force du droit qu'il tentera toujours de servir et d'appliquer à tous les postes qu'il occupera.
Je crois que c'est ce qu'il y a de très bouleversant, cette disparition aujourd'hui. C'est-à-dire non seulement la disparition de cette immense figure de notre histoire, mais le moment où il s'éteint. C'est-à-dire ce moment de doute où nous sommes maintenant, les Républicains, face aux montées des extrêmes droites, face aux montées, à la montée de l'antisémitisme, du racisme. Ce qui est très intéressant chez Robert Badinter, c'est qu'il y a effectivement ce que Pierre Birnbaum a très bien décrit, c'est-à-dire ce parcours des Juifs d'État, mais il n'est pas tout à fait un Juif d'État, c'est-à-dire qu'il a connu effectivement la trahison de Vichy, donc il a cette passion pour l'histoire de l'émancipation, et ça a été son dernier message lors du colloque que le CRIF a tenu le 27 septembre 2023 sur justement de rappeler qu'elle avait été... quelles avaient été les réalisations de cette émancipation. Mais ce qui fait la particularité, je crois, de Robert Badinter, et on pourrait citer un certain nombre d'autres figures, Pierre Birnbaum a rappelé le nom de Simone Veil, par exemple, c'est cette croyance dans la force des institutions. Mmh. Une chose qui est très frappante quand il parle, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, il en arrive à dire que, finalement, Goebbels, en 1942, n'aurait jamais imaginé ce progrès de l'humanité qui a permis la Seconde Guerre mondiale, à savoir le tribunal de Nuremberg. Et en fait, ce que Robert Badinter tire de l'histoire et de l'émancipation juive, c'est l'idée finalement que les institutions, que la loi, transforment la société. Et je crois que lorsqu'il demande l'abolition de la peine de mort, et cette formule donc, que vous nous avez fait entendre, contient ces trois termes, gouvernement, république, France, qui, chez lui, ont toujours été associés. C'est cette idée, finalement, très juive, de l'importance de la vie, du fait qu'on ne peut pas retirer la vie à un homme, de l'importance de la justice, qu'il a aussi apprise auprès de son maître Henri Thorez, et finalement... si vous voulez, du fait que les institutions permettent de transformer la société, mais à condition qu'elles soient mues par un humanisme, à condition que ce soit les hommes, finalement, qui agissent au sein des institutions.
Et sur ce point, vous qui l'avez beaucoup fréquenté, qui avez travaillé avec lui, Antoine Lioncamp, est-ce que cette question de ce droit tel que il vient d'être décrit à la fois par Pierre Birnbaum et par Perrine Simon-Naoum est quelque chose qui orientait sa vision justement de ce qu'est une démocratie, sa vision de ce qu'est un État, de ce qu'est une République?
Alors, Robert Badinter, il était habité. Totalement habité par le droit et par l'idée que une société démocratique demandait le droit et que le droit n'était pas simplement destiné à, on va dire, organiser, mais aussi à protéger contre tous les abus des organisations. Donc, il était persuadé que la Constitution dans un État-nation était vraiment essentielle, puisque ça permettait de soumettre au moins à des principes l'activité politique. Il était convaincu que la société internationale devait absolument s'orienter vers un règlement par des institutions juridictionnelles des différends. Mmh. Et il a passé beaucoup de temps dans sa vie à essayer de propager. Il a été l'ambassadeur de cette idée, d'ailleurs pour les Nations Unies, d'une certaine manière.
Il a participé d'ailleurs à la rédaction de au moment où il y a eu par exemple après l'ouverture la chute du mur de Berlin, il a participé avec d'autres juristes à la question de la rédaction ou de la conception peut-être de nouvelles constitutions parce qu'il y avait nécessité d'en recréer aussi Antoine Lioncamp.
Alors Et il a notamment, dans les Balkans, essayé d'acclimater l'idée constitutionnelle dans ces fragments qui sont devenus ces États indépendants à la suite de l'éclatement de la Yougoslavie. Et il a contribué à faire naître dans certains de ces États des cours constitutionnelles. Mais il a aussi contribué à la naissance des quelques juridictions internationales. Je ne parle pas de la Cour internationale de justice qui existait déjà, mais le tribunal pénal international ou la juridiction pénale qui a jugé de certains criminels de guerre dans les guerres des Balkans. Donc c'était un de ces souffles, je veux dire. Mais le souffle juridique.
D'où lui venait cette conviction? Est-ce que ça lui venait, comme certains le disent dans ses biographies, peut-être lui-même l'a-t-il dit d'ailleurs, de ce séjour et de ce diplôme qu'il obtient à l'Université de Columbia? Tout à l'heure, Pierre Bienbon nous parlait d'un colloque où il s'était rendu aux côtés, beaucoup plus récemment, aux côtés de Robert Badinter à Columbia. Est-ce que ça lui venait de ce séjour, de cet apprentissage après la Seconde Guerre mondiale de la société américaine, qui est très marquée par le droit, ou est-ce qu'il y avait, disons, une sorte de fusion entre ce droit anglo-saxon et le droit à l'européenne tel qu'il était développé dans nos institutions à nous, Antoine Lyon-Caen?
Alors, c'est difficile d'attribuer à ce séjour d'un an à
oui,
Columbia
bien sûr,
une responsabilité particulière, mais il a très tôt décidé de faire des études de droit. Il a beaucoup aimé le métier d'avocat, et le métier d'avocat lui a appris l'importance de la contradiction et de la contradiction organisée. C'est-à-dire, pour lui, la scène peut-être idéale, c'était la scène dans laquelle les gens échangeaient des arguments, essayaient de se convaincre, tout ça sous l'égide d'un éventuel tiers qui finissait par trancher leurs différends. Et je pense que c'est plutôt le métier d'avocat, de jeune avocat, qui lui a, à la longue, l'a convaincu de l'importance dans nos sociétés du droit. Et il avait une telle idée de l'importance du droit, c'est que il s'est très vite convaincu qu'il devait enseigner le droit. Il était un avocat célèbre lorsqu'il a décidé de passer l'agrégation de droit pour pouvoir l'enseigner. Et il a suivi pratiquement un chemin dans lequel il a exercé pratiquement toutes les fonctions qu'un juriste peut occuper. Et il a même été juge, puisque... Enfin, même si c'est contesté que le Conseil constitutionnel constitue une juridiction, mais il a présidé le Conseil constitutionnel, et donc il a son cheminement, c'est vraiment le répandre la religion du droit.
18h40 ou presque sur France Culture. Vous êtes en train d'écouter le temps du débat spécial que nous consacrons à Robert Badinter après l'annonce aujourd'hui de son décès. Nous sommes en compagnie, vous venez de l'entendre, d'Antoine Lyon-Caen, avocat en conseil, juriste proche de Robert Badinter, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, de Perrine Simon-Naoum, docteur en histoire, mais directrice également du département de philosophie à l'École normale supérieure Ulm. Avec nous également à distance, Pierre Bienbaum, historien et professeur émérite à Paris 1, et Nicolas Picard, docteur en histoire à l'Université de Paris, et spécialiste de la question de la peine de mort dans l'histoire française entre 1906 et 1981.
Au plus profond secret de l'attachement à la peine de mort s'inscrit, inavoué le plus souvent, la tentation de l'élimination. Ce qui paraît insupportable à beaucoup, c'est moins la vie du criminel emprisonné que la peur qu'il récidive un jour. Et il pense que la seule garantie à cet égard, c'est que le criminel meure ou qu'il soit mis à mort par précaution. Ainsi, dans cette conception, la justice tuerait, moins par vengeance que par prudence. Au-delà de la justice d'expiation, on découvre ainsi la justice d'élimination, derrière la balance, la guillotine. Et on dit, l'assassin doit mourir. Il doit mourir tout simplement parce que, ainsi, il ne récidivera pas. Et tout paraît si simple. Et tout paraît si juste. Seulement, à cet instant-là, précisément, on perd de vue ce qu'est la réalité même de la justice. Quand on accepte ou quand on prône la justice d'élimination au nom de la justice, il faut bien savoir dans quelle voie on s'engage.
Vous venez d'entendre évidemment Robert Badinter dans son célèbre discours demandant à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort le 17 septembre 1981. Nicolas Picard, vous n'êtes pas encore intervenu, vous êtes spécialiste en tant qu'historien de cette histoire du châtiment suprême. On vient d'entendre évidemment Robert Badinter. En quoi ce discours s'inscrit dans une longue durée justement du rapport à cette peine de mort et tranche-t-il peut-être avec ce qui précède ?
Alors il s'inscrit dans la lignée parce que déjà on y retrouve les idées de Cesare Beccaria qui, au siècle des Lumières, avait déjà prôner l'abolition de la peine de mort sur des critères d'utilité, c'est-à-dire que si la peine de mort n'est pas utile, ça ne sert à rien de l'appliquer. Et donc là, ce que va essayer de démontrer Robert Badinter, c'est que la peine de mort n'est pas utile, elle n'est pas utile pour faire un exemple, ça n'effraie pas les criminels, ça ne les effraie pas assez, voilà. Et elle n'est pas non plus utile pour lutter contre la récidive, puisque il y a d'autres moyens, en fait, de l'empêcher. Il y a la réinsertion, quand même, et éventuellement, même comme si ça n'est pas possible, la mise à l'écart tout au long de la vie. Mais lui était plutôt pour rechercher la réinsertion. Donc déjà, il s'inscrit dans cette très longue lignée de l'abolition moderne. Et on peut aussi entendre dans les toutes dernières phrases que nous venons d'avoir l'héritage aussi de la Seconde Guerre mondiale, enfin de l'antitotalitarisme qui suit la Seconde Guerre mondiale, parce que la cause de l'abolition a trouvé un nouveau souffle après la Seconde Guerre mondiale, car elle a été associée en fait aux excès du totalitarisme, c'est-à-dire au fait que lorsqu'on s'engage effectivement dans une justice de l'élimination, jusqu'où peut-on aller ? La peine de mort a flirté dans les années 20-30 avec des discours criminologiques qui ont été proches de l'eugénisme, lui-même proche de certaines théories raciales. Voilà. Donc c'est aussi là-dessus, dans cette lignée, qu'il se place.
Oui, Pierre Birnbaum, on voit aussi qu'il y a ce dégoût d'une certaine simplicité, d'un certain bon sens qui serait celui de « il faut éliminer celui qui a commis un crime parce que ce serait la pure vengeance » et qu'il y a, chez Robert Badinter, cette idée que tout paraît si simple. Il ne faut pas justement céder à cette sorte de simplicité qui serait une fausse simplicité.
Écoutez, je trouve que ce qui manque dans notre débat pour l'instant, c'est un nom important sur lequel Badinter a beaucoup réfléchi, qui est Condorcet.
Vous avez absolument raison, et c'est bien que vous l'avanciez, parce qu'effectivement, parmi les figures de la Révolution française, figure que s'était choisie, avec Elisabeth Badinter, que s'était choisie Robert Badinter, qu'il a voulu porter au moment du bicentenaire de la Révolution française en 1989, eh bien, c'était celle de Condorcet.
Et donc, avec Condorcet, sur lequel il a écrit un livre important, on a une figure qui est hostile précisément à la violence radicale du jacobinisme, par exemple. Qu'est-ce que c'est que le jacobinisme ? C'est aussi le recours à la peine de mort, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a un lien très très clair entre le refus d'une sorte de terreur et le refus d'appliquer cette terreur par le châtiment suprême qui est la peine de mort. Et Condorcet est la grande figure de l'humanisme, du rationalisme, d'une sorte d'éthique universaliste qui récuse ce recours absolu à la violence dont il est lui-même victime. et que Badinter a retracé. Je pense que c'était important d'évoquer dans notre dialogue cette figure de Condorcet sur laquelle, comme vous l'avez dit il y a un instant, avec son épouse, ils ont écrit un livre important qui était un vrai livre de recherche, un livre universitaire.
Périne Simon-Naoum, sur cette question de l'abolition de la peine de mort, comme étant aussi partie prenante, pourrait-on dire, de la pensée de Robert Badinter sur le droit, sur la justice et sur la République.
Oui, je crois que, donc on vient de citer Condorcet, on peut aussi citer Camus. Et l'introduction, la fameuse introduction à l'homme révolté, vous savez, où Camus explique qu'il y a le meurtre par passion, mais qu'il y a aussi, en 1945, et il pense évidemment au totalitarisme, à la fois au nazisme et au stalinisme, le meurtre par logique. Mmh. Ce qui est très intéressant dans la pensée de Robert Badinter, et ce qui le situe à la fois comme héritier de Condorcet, mais aussi comme quelqu'un qui a tiré les leçons, je dirais, de l'histoire qu'il a vécue, c'est qu'il pense à la fois, je dirais, le perfectionnement de la société, comme Condorcet, et le perfectionnement de l'homme. Et la manière dont, finalement, les deux s'interpénètrent. Les deux ne peuvent pas marcher l'un sans l'autre. Et dans ce perfectionnement de l'homme et de la société, ce qui joue évidemment un rôle très important, c'est le rôle, je dirais, des législateurs. Alors évidemment, on peut penser à la figure de Moïse, mais lui-même a été un législateur important. Hein. Il n'y a pas que la peine de mort, il y a la réforme du code pénal. Donc la manière dont finalement les institutions joue sur la société pour pouvoir transformer, pour pouvoir à la fois éradiquer, enfin pas éradiquer, mais contrecarrer une certaine forme de violence. Et je crois que c'est là aussi où je commençais en disant cette émission, en disant que finalement l'aspect bouleversant de sa disparition aujourd'hui, c'est que il me semble qu'on a vu surgir chez lui ces dernières années, au moins ces derniers mois, une forme de pessimisme historique qu'on a vu aussi dans chez des figures comme Marceline Loridan. Mmh. C'est-à-dire l'idée finalement que certes l'histoire ne se répétait pas, mais que on trouvait quand même un certain nombre d'échos entre la période que nous vivions et les années 30. Et c'est là où la disparition de Robert Badinter me paraît à la fois particulièrement symbolique et grave. C'est que nous avons besoin de figures qui viennent réaffirmer comme ça l'importance des médiations, l'importance des institutions, l'importance de la politique finalement pour lutter contre la violence et les populismes.
Antoine Lyon-Camp, sur cette question justement de ce pessimisme historique tel qu'il est décrit à l'instant même par Périne Simon-Naoum et qui aurait rattrapé d'une certaine manière le volontarisme dont avait toujours fait preuve Robert Badinter dans son action politique.
Alors, je vais repartir de la peine de mort parce que il pensait que l'abolition, elle permettrait de revoir, de revisiter, de repenser les institutions judiciaires. Mmh. C'est-à-dire, il utilisait une image en disant que le système judiciaire en France repose sur la peine de mort, comme si c'était une pyramide inversée avec le point d'accroche qui était la peine de mort. En effet, abolir la peine de mort, ça obligeait à repenser que fait-on des criminels. Qu'est-ce que la prison ? Et il a eu une réflexion il invitait à dîner ou à déjeuner, je me souviens, Foucault au ministère de la Justice.
Michel Perrault aussi, grande historienne, a beaucoup participé
bien sûr,
à ces questions.
Michel Perrault qui a été vraiment une de ses compagnes de réflexion sur la prison. Il pensait que ça obligeait à repenser les enfermements, les privations de liberté sous quelque forme que ce soit, etc., etc. C'est-à-dire qu'il pensait que ça allait libérer une réflexion critique, constructive peut-être, sur le fonctionnement et le rôle de l'institution judiciaire. Alors, même, je ne pense pas qu'il était un optimisme ou un idéaliste comme on l'a décrit. Il avait des moments de... Évidemment, il était très, très sceptique sur la capacité de certaines sociétés à accepter des discours qui les prenait de front. Mmh. Et lui-même, il a vécu hein, des périodes d'hostilité.
De haine, peut même dire de haine qu'avait connu, par exemple, Pierre Mendès-France quand il était au pouvoir aussi, ou ensuite, effectivement, il y avait aussi une haine et un antisémitisme qui pouvaient parfois s'exercer quand on criait Badinter assassin, quand des policiers en colère criaient Badinter assassin, c'était de la haine.
Et il avait des manifestations sur la place Vendôme de policiers qui étaient persuadés qu'il libérait tous les matins des détenus. Hein, et il s'était mis dans l'idée qu'il était le grand libérateur des détenus. Mais comme il disait, c'est une expression que vous connaissez peut-être, il avait vraiment la nuque raide. Mmh. C'est-à-dire ouais. qu'il ne pliait pas. Et je dirais plus, c'était un homme de principe dans tous les sens du terme. Et plutôt que un idéaliste, je pense que sa fréquentation de Condorcet peut-être l'avait conduit à être plus prudent sur les vertus humaines, bon, mais il n'empêche que pour lui, c'était la mission nécessaire de l'engagement politique, c'est-à-dire de, comme ça a été dit très bien, de construire, améliorer les institutions sans lesquelles la société se laissait aller à toutes les formes de
violence.
Oui, de violence, il était...
Nicolas Picard, sur effectivement cette idée, comme le disait à l'instant même Antoine Lioncamp, de penser que effectivement cet échafaudage qui était l'échafaudage du droit et de la question de la punition dans la société française avant l'abolition de la peine de mort, il fallait repenser la place de la prison et donc à partir de ce moment-là, engager une véritable réforme profonde de ce qu'était la justice en France.
Alors déjà, dès qu'il est arrivé au ministère, on peut souligner qu'il a mis fin à des régimes d'exception, la Cour de sûreté de l'État, les tribunaux permanents des forces armées, donc et la peine de mort s'inscrivait pour lui dans cette exceptionnalité juridique. Donc c'est le premier élément. Et également, effectivement, il avait insisté aussi lors du vote de l'abolition pour qu'il n'y ait pas de peine de substitution, comme le réclamaient certains députés, certains sénateurs qui se déclaraient prêts à voter pour l'abolition, à condition qu'il y ait une peine de substitution. Voilà. Et donc, il a voulu établir simplement la perpétuité, qui à l'époque n'était pas incompressible, qui était juste simplement le degré inférieur. Et pour lui, ça participait du fait qu'effectivement, il fallait commencer à étêter un petit peu la pyramide des peines pour pouvoir repenser l'intégralité du système pénitentiaire. Il était aussi contre l'inflation carcérale et pour retrouver d'autres méthodes pour réinsérer les délinquants. Alors voilà, c'est peut-être là où il y a eu une sorte de disjonction, puisque l'idée de l'abolition de la peine de mort a plutôt gagné les esprits, en tout cas les esprits des élites politiques. Hein, lorsqu'il y a eu la constitutionnalisation de 2007, il y a eu à peine une trentaine de parlementaires qui ont voté contre, alors qu'il y a plus de 800 parlementaires qui ont voté pour. Donc là-dessus, c'était gagné. Mais en 2007, on est en même temps dans une période où on parle de la rétention de sûreté, on parle de durcir les peines. Et aujourd'hui, on sait qu'on est dans une situation de surpopulation carcérale. Voilà, donc là-dessus, son œuvre est restée pour l'instant inachevée.
Inachevée, effectivement. Perrine Simon-Naoum, vous nous avez dit effectivement eh bien, qu'à la fois la montée de l'antisémitisme au moment justement de la mort que nous avons connue aujourd'hui de Robert Badinter, mais peut-être aussi la contestation du droit. La contestation du droit que l'on entend un peu partout, de la contestation des cours constitutionnelles, la contestation des décisions juridiques qui s'imposeraient aux politiques, font partie aussi d'une certaine manière de ce retour, peut-être, de ce backlash, ce retour de bâton que l'on n'imaginait pas lorsque justement on pouvait penser que c'était tout cela était acquis.
Oui, effectivement, et je crois que c'est l'héritage en fait que nous laisse Robert Badinter. Il a à un moment, je regardais à nouveau des interviews. Il a une très belle phrase où il dit finalement, c'est vous maintenant qui êtes les héritiers, qui venez après moi. Je crois que c'est le message qu'il nous laisse, à savoir cette importance des institutions. La manière dont, la démocratie ou la République sont à la fois des régimes politiques déceptifs, mais des régimes politiques qui peuvent être perfectionnés et qui doivent être perfectionnés en regard de l'horizon qui nous porte, d'une certaine vision de l'homme, d'un horizon régulateur de la raison. Et je crois que c'est cette vision qu'incarnait vraiment Robert Badinter, c'est-à-dire la plus belle image, finalement, de l'homme d'engagement, de l'homme politique, et de quelqu'un qui, ayant vécu les bouleversements de l'histoire, continuait finalement à croire à cette possibilité de perfectionnement et d'avancée de l'humanité.
Pierre Birnbaum, un dernier mot ?
Écoutez, non. Beaucoup d'émotions devant la disparition de cette figure qui effectivement nous impose de tenter de continuer sa lutte pour le droit et contre l'injustice. Également, il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée ensemble, également son combat pour le socialisme, puisqu'il a quand même été en charge de la rédaction de la charte avant l'élection de Mitterrand en 77, 78, 79, du petit livre sur liberté, justice, je ne sais plus, auquel d'ailleurs j'avais participé. Et il était vraiment à la manœuvre. Il faisait vraiment le travail de rédaction qui aurait permis et qui a permis, un tout petit peu peut-être, l'élection de Mitterrand et la transformation, le passage à un autre monde, c'est-à-dire au monde, effectivement, après les épisodes de Giscard d'Estaing et d'autres, où à nouveau on pouvait voir se profiler. C'était peut-être beaucoup d'illusions, mais en tout cas, à nouveau, peut-être on pouvait espérer se profiler le droit et la justice.
Merci en tous les cas, un grand merci à tous les quatre. Merci Nicolas Picard qui est auteur du Châtiment suprême, l'application de la peine de mort en France. Merci, un grand merci à vous Antoine Yonkan d'avoir accepté de venir en tant qu'avocat au conseil, ami de Robert Badinter, juriste et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales dans cette émission. Merci à vous Perrine Simon-Naoum, historienne et directrice du département de philosophie à l'ENS Ulm, et à vous Pierre Birnbaum d'avoir pris sur votre temps pour venir avec nous en tant que professeur émérite à Paris 1. C'était le temps du débat préparé ce soir par Roxane Poulin, Mathias Mégy, Fanny Richet, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Jérémy Kaufmann.